Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de Vivante Église au matin de la deuxième journée de notre Radio Don 2025. Je rappelle la thématique que nous avons choisie cette année pour ces trois jours de programmation spéciale. Écoutons-nous les uns les autres. J'ai pensé qu'un numéro de Vivante Église consacré au dialogue interreligieux était une bonne manière de l'illustrer. Trois invités pour en parler dans cette émission, deux confessions juives, deux confessions musulmanes et deux confessions chrétiennes. Et je souhaite aussi la bienvenue à ces trois invités, à Salomon Attia, secrétaire général du CRIF Toulouse-Occitanie.
Bonjour, bonjour à tous.
Au père Jean-Jacques Rouchy, islamologue, ex-délégué du diocèse de Toulouse au dialogue avec l'islam mais aussi au dialogue interreligieux.
Bonjour.
Et je salue enfin et je souhaite la bienvenue à Elias Samrakandi, professeur de philosophie musulman proche des cercles soufis.
Bonjour à tous.
Merci à tous les trois d'avoir accepté mon invitation à échanger autour de ce sujet du dialogue interreligieux pour illustrer la thématique « Écoutons-nous les uns les autres » de notre Radio Don. Et pour ceux qui veulent apporter leur soutien financier à Radio Présence, je signale qu'ils peuvent faire leur promesse de don en appelant le 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00. Il est possible aussi de faire directement un don en ligne sur notre site internet www.radioprésence.com. Et je signale en passant que si vous appelez entre 9h et 10h, donc pendant cette émission, vous pouvez gagner un coffret Radio Don d'une valeur de 45€ offert par la boutique de l'artisanat monastique. Ceci étant dit, nous revenons au dialogue interreligieux. Je vais vous poser une question qui a l'air simple, mais la réponse ne l'est pas forcément. Comment concevez-vous et pratiquez-vous personnellement le dialogue interreligieux aujourd'hui dans la société française de 2025 ? Salomon Attia.
Alors, bonjour à tous les auditeurs. D'abord, le dialogue interreligieux, ça fait longtemps qu'on le travaille au sein de notre communauté. Et je salue mon ami Jean-Jacques Rouchy, avec qui nous travaillons depuis, malheureusement, mars 2012, où il y a eu les attentats à l'école Hortora. Et je salue Elias. Et donc, ce dialogue s'est fait par diverses façons. Nous participons à Toulouse Fraternité, organisée par la mairie, justement pour parler de laïcité, du concept de laïcité, et apportons des solutions sur plusieurs thématiques, soit le sport ou les conseillers municipaux. Nous travaillons aussi, et je salue la mémoire de notre ami Roger Attali, qui travaillait sur le diplôme universitaire. Nous organisons, comme la semaine dernière, des déjeuners, ce qu'on appelle entre guillemets des déjeuners gourmands, où nous réunissons toutes les confessions, des responsables de confessions religieuses, et nous avons travaillé à l'heure de partage. Beaucoup d'actions ont été menées dans ce qu'on pourrait appeler le vivre ensemble, mais aujourd'hui, on en parlera peut-être après. Qu'est-ce que le vivre ensemble c'est aujourd'hui une notion qui n'est plus valable. On en a trop fait peut-être sur le vivre ensemble, c'est peut-être comment fait-on ensemble. Voilà.
Père Jean-Jacques, alors vous, le dialogue interreligieux, c'est une vieille histoire. Hein ?
Alors, le dialogue, c'est peut-être un grand mot. Je crois que nous en sommes d'abord à nous convertir à une attitude intérieure, justement, qui nous est recommandée par le Concile Vatican II. Je cite quelques phrases. « L'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans les religions. » Elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, ses règles et ses doctrines, qui, quoiqu'elles diffèrent en beaucoup de points de ce qu'elle-même tient et propose, apportent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. Donc, c'est d'abord une attitude d'intérêt pour l'autre, pour ce qu'il est, pour ce qu'il croit, convaincu que, d'une vérité toute simple, si nous pensons que notre foi, notre croyance, notre doctrine, notre façon de vivre est juste, eh bien, il faut forcément en retrouver des éléments chez les autres. Sinon, on est un peu moins universel qu'on ne le croit. Voilà, donc c'est une révolution mentale où nous sommes passés d'une attitude d'autosuffisance, je dirais, à une attitude d'ouverture et d'intérêt gratuit. Alors pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait deux personnes qui soient disposées à parler. Et il faut d'abord s'apprivoiser, surtout après des siècles de relations plutôt conflictuelles, qu'il ne faut pas mettre sous le tapis, non pas pour se remettre à la figure tous les conflits d'autrefois, mais pour les apaiser et pour entrer justement dans une attitude nouvelle. Alors nous en sommes à la rencontre, il y a plusieurs niveaux, je pense que nous en parlerons. Il peut y avoir effectivement quelques petits groupes qui approfondissent une connaissance mutuelle gratuite et enrichissante pour les deux. Il y a surtout le travail commun pour le bien de la société, ce qu'on appelle le vivre ensemble, et puis le progrès mutuel. Alors là, c'est aussi recommandé par le Coran, je crois. Il faut se dépasser dans les bonnes œuvres plutôt que de se battre. Donc, tout à fait d'accord avec cette perspective. Et alors, bien sûr, par rapport au judaïsme, bon, l'événement de la Shoah était un électrochoc qui, après quelques pionniers qui ont vu que l'attitude avec le judaïsme était quand même assez problématique de la part de l'Église catholique. Et donc, depuis le début du XXe siècle, il y a un regard beaucoup plus, je dirais, de reconnaissance filiale pratiquement, puisque le pape Benoît XVI disait que, je ne suis pas le premier à le dire d'ailleurs, que les Juifs étaient nos aînés dans la foi. Donc, il y a une attitude tout à fait commune, c'est-à-dire d'ouverture. Et évidemment, un rapport disproportionné, puisque, faudra lire aussi le Concile Vatican II, beaucoup d'apports au christianisme ont été faits dans ce que les chrétiens considèrent comme une continuité par rapport à la foi des communautés juives, hein, donc depuis des millénaires. Il faudrait aussi parler de... Il n'y a pas que les religions.
On voilà. En parlera.
Donc il y a aussi les personnes qui ont des convictions, qui sont non pas l'objet, mais le sujet aussi d'un dialogue. Voilà ce qui colore de façon un peu nouvelle les rapports interreligieux. Puis bon, on en parlera sans doute, les problèmes sociaux, politiques qui s'y greffent
et qui
compliquent le dialogue, mais le rendent d'autant plus nécessaire.
Oui. Si je peux, pardon, ajouter une chose par rapport, et je rejoins totalement ce que dit mon ami, hein, parce qu'on se connaît depuis très longtemps, Jean-Jacques, ce qui nous rejoint aussi, et on en parlera, j'imagine, dans l'émission, c'est la laïcité aussi, qui nous permet de pouvoir justement faire notre religion de notre côté, tout en ayant le respect de la République. Et c'est en cela, je pense, le point central, l'un des points centrales.
On va bien sûr aborder effectivement ce sujet de la laïcité et la façon dont chacune des religions l'aborde. Elias Samrakandi, alors vous, votre conception du dialogue interreligieux et peut-être la manière dont vous le pratiquez déjà.
Alors, peut-être qu'on pourrait revenir sur ce terme de dialogue interreligieux, puisque d'un point de vue islamique, on pourrait peut-être plutôt parler vis-à-vis du rapport que la révélation mohammedienne entretient avec le christianisme et le judaïsme. On pourrait peut-être plutôt parler de dialogue intra-religieux, en réalité. Là, je me situe au niveau intellectuel. Pourquoi dire ça? C'est que pour un musulman, il n'y a pas de différence qui est faite entre les prophètes, et tous les prophètes viennent avec un message qui, dans le fond, est le même. Ça ne va être que la forme extérieure, éventuellement les rites qui peuvent changer, mais le fond est le même. Et le fond de toutes les religions consiste en quoi? À éveiller ce potentiel infini d'amour qui réside dans le cœur humain pour le faire émerger, faire en sorte que ces humains précisément deviennent des fleuves d'amour qui se répandent dans le monde. Et donc de ce point de vue-là, je ne crois pas qu'il y ait de différence fondamentale entre les religions. C'est pour ça qu'il serait peut-être plus heureux de parler de dialogue intra-religieux. Alors, ça, c'est d'un point de vue intellectuel, bien sûr. D'un point de vue pratique, on en est effectivement loin, puisque pour tout un tas de raisons, le dialogue est rendu difficile, mais pour des raisons qui sont en réalité bien plus politiques que théologiques, me semble-t-il, ou spirituelles. Et pour aller peut-être dans ce sens et œuvrer à un rapprochement profond et authentique entre les traditions, peut-être qu'on pourrait se tourner, et en tout cas c'est ce que j'essaie de faire déjà d'un point de vue intellectuel, et je pense que les échanges pourraient être d'autant plus féconds s'ils s'orientaient de ce point de vue-là, on pourrait se tourner vers la mystique. Et j'ai pris connaissance récemment d'un auteur qui s'appelle, j'espère que je vais bien prononcer, mais Ibn Barkouda, qui est un auteur donc mystique juif d'Espagne du XIe siècle, qui, dans un ouvrage qui s'appelle « Le livre du devoir des cœurs », et qui d'ailleurs est un livre, je ne crois pas dire de bêtises en disant qu'il est souvent offert lors de la bar mitzvah, c'est-à-dire c'est un ouvrage qui est très répandu au sein de la communauté juive, même orthodoxe. C'est un livre qui cite des mystiques musulmans, sans dire qu'ils sont musulmans, en disant un pieux a dit, et qui assume leur pensée, leur héritage comme étant quelque chose qui fait partie du patrimoine juif. Voilà, et donc je trouve ça extraordinaire, et peut-être qu'on pourrait se baser sur ce type de texte et d'approche pour œuvrer à un lien profond entre les traditions, en tout cas, voilà, dans un cadre, disons, qui est celui de l'islam spirituel, c'est ce qu'on essaie de faire.
Merci beaucoup, Elias Abrakandi. Salomon, tiens, d'un point de vue spirituel, en dehors de toute considération politique, on va essayer d'évacuer ça dans cette émission, même si ce n'est pas toujours simple. Quels sont, selon vous, les points communs entre vos trois religions, ceux qui, justement, permettent le dialogue entre elles?
Bon, déjà, ce qui nous permet d'avoir le dialogue, c'est, je le redis encore une fois, c'est la laïcité. Encore une fois, pour moi, c'est l'une des principales chance que nous ayons dans ce pays de pouvoir discuter, échanger et pratiquer sa religion de son côté sans que ce soit une obligation de l'imposer aux autres. Ensuite, évidemment, dans nos trois religions, les 10 commandements, le premier testament, de ne pas voler, ne pas tuer, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans la loi, ce sont des éléments importants. Donc effectivement, je trouve que dans nos trois religions, il peut y avoir des points communs à condition qu'effectivement nous soyons sous une bannière de respect, de république, voilà, et qu'une religion n'impose pas une autre religion certaines choses. Voilà. Et là, effectivement, dans nos trois religions, il y a de très belles choses. Et c'est en cela que c'est important de le faire remarquer. C'est pour ça que nous faisons ce genre, et merci d'avoir fait cette émission-là, parce que c'est justement sur ces points-là que nous devons aujourd'hui accentuer nos missions, à savoir ce dialogue, montrer ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise.
Père Jean-Jacques Rochy, les points communs entre les trois religions, selon vous, sur lesquels on peut s'appuyer pour dialoguer?
Non, je pense que les points communs essentiels sont un peu dans le sens que vient de dire Elias, c'est-à-dire spirituel. Voilà. Et en particulier, donc, dans le même Concile Vatican II, ce qui est dit par rapport à l'islam concerne effectivement, non pas l'islam, mais les musulmans. L'Église regarde avec estime les musulmans. Pourquoi ? Parce qu'ils adorent un dieu ou le dieu, les deux traductions sont possibles, et là on va reprendre des attributs de Dieu dans la foi islamique, un dieu un, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Voilà, c'est donc l'adoration d'un dieu de ce type-là que nous regardons peut-être de points de vue différents, mais nous reconnaissons qu'il est Wahid, qu'il est Hayy, qu'il est Al-Qa'im. Donc tout ça, on a repris, si vous voulez, ces attributs de Dieu dans lesquels nous retrouvons tous, avec aussi l'allusion au prophète, l'allusion à la figure d'Abraham, même s'il est vu de façon tout à fait différente. Le Coran parle aussi de Jésus et de Marie, même si au point de vue théologique, les différences là sont très grandes, hein, parce que donc pour nous, pour les chrétiens, Jésus est le sauveur universel, il est la parole de Dieu, donc au point de vue, si l'on approfondit de la théologie même, de la théologie mystique, ce n'est pas tout à fait le même rapport, ou plutôt la même façon d'en parler. Mais ça fait suffisamment de points communs, donc pour l'attitude spirituelle d'adoration, la prière, le fait de vouloir faire la volonté de Dieu, et puis le comportement moral qui en découle, dans la morale privée, mais surtout aussi dans le respect de l'autre, l'amour de l'autre, et en particulier, donc ce sont les mystiques qui ont le plus développé cela. Alors par rapport au judaïsme, évidemment, même si ça a l'air d'être un peu une OPA, la foi catholique reconnaît intégralement tout ce qui est dit dans l'Ancien Testament, au point de vue en particulier du message prophétique pour la justice, le partage, valeur d'ailleurs que l'on retrouve aussi même jusque dans des préceptes musulmans, en particulier la zakat qui est le partage, enfin voilà, donc au niveau des valeurs morales, on pourrait dire sociétales, d'attention à l'autre, d'attention aux pauvres, là aussi nous nous retrouvons tous, donc ça fait quand même un beau patrimoine, je dirais spirituel et moral, même si au point de vue théologique, effectivement, il y a des différences qui sont importantes.
Salomon.
Oui, encore une fois, je rebondis sur ce que dit le père Jean-Jacques, et vous avez parlé chez les musulmans, vous dites, nous on appelle ça la tzedaka, ce qu'on dit justice, et effectivement, une des actions qui est menée, comme dans la religion musulmane, c'est justement le don, et sur des actions, par exemple, qui sont menées, nous avons à Toulouse une journée tzedaka, qui est, voilà, la tzedaka, qui est une journée spéciale pour aider les familles nécessiteuses, et à Toulouse, par exemple, on parlait de l'interreligieux, voilà une chose qui est importante, on a ce qu'on appelle le kazit qui aide des familles juives, mais pas que, qui reçoit de la nourriture et qui aide aussi, que ce soit de toutes les confessions, des gens qui en ont besoin. Et ça, c'est aussi une des valeurs qui nous rassemble à tous les trois.
Elias, ça me raconte, vous, les points communs que vous voyez entre vos trois religions.
Alors, les points communs, si on peut commencer par peut-être, à mes yeux, le moins important, c'est-à-dire le niveau théologique. Il y a évidemment des points communs immenses entre judaïsme et islam, puisque au niveau de la conception du divin, beaucoup de théologiens juifs considèrent que l'islam est une religion tout à fait correcte. Par exemple, Maïmonide admet que voilà, les penseurs musulmans ont un rapport à Dieu au niveau de sa conception, au niveau de l'adoration, tout à fait juste. Évidemment, il y a des différences théologiques avec le christianisme, on y reviendra peut-être rapidement, mais peut-être à un niveau plus profond et plus universel, qui est le niveau spirituel, là, les points communs sont immenses, et on pourrait, à mon avis, voilà, encore une fois, c'est le parti que je pense qu'il faudrait prendre, insister dessus pour nous réunir et nous inscrire à cet égard dans le sillage de Louis Massignon, autour duquel nous nous étions réunis il y a quelques mois.
Table ronde il y a quelques mois, effectivement.
Et qui, lui, auquel les musulmans doivent énormément, puisqu'il a permis de porter à la connaissance du public occidental l'extrême richesse, l'extrême beauté de la mystique musulmane, en particulier à partir de la figure de Hallaj. Et alors, quand j'entends que, oui, il y a des valeurs communes, le partage, tout ça, c'est une évidence, je veux dire. Au niveau éthique, c'est pas une question de partage, une question... Le musulman, le juif, le chrétien doivent donner absolument toute leur personne, tout leur être au Seigneur et s'offrir au monde pour le faire rayonner d'amour. Je veux dire, la quête, elle est absolue. Donc, il ne s'agit pas simplement de donner son pognon à la fin de l'année. Tout ça, c'est... Vous voyez, et donc, c'est pour ça que je pense que les mystiques, ceux qui ont cherché Dieu de tout leur cœur, peuvent à la fois nous inspirer, nous montrer un chemin à suivre et qui nous permettrait à la fois de nous réunir et de nous hisser au-dessus de nous-mêmes. Voilà, je pense qu'on en a besoin aujourd'hui.
Alors je vais refaire un appel au don à tous nos auditeurs à ce moment de l'émission. Donc si vous voulez soutenir Radio Présence, soutenir des émissions comme Vivante Église et comme celle que nous sommes en train de faire, je vous invite à appeler le 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00, et vous pouvez également faire un don directement en ligne en vous connectant à notre site internet www.radioprésence.com. Je rappelle que si vous appelez entre 9h et 10h, vous pouvez gagner gagner un coffret radiodon d'une valeur de 45 euros offert par la boutique de l'artisanat monastique. On a parlé de laïcité. Quel est votre rapport à la laïcité, vous trois, personnellement bien sûr, mais aussi avec les associations au sein desquelles vous œuvrez, Salomon Attia?
Alors pour nous, la laïcité, elle est vitale. Voilà. C'est le socle qui permet à chaque religion de pouvoir exercer son culte de façon privée, tout en ayant les mêmes droits les uns aux autres et du respect des uns aux autres. Donc la laïcité, sans laïcité, si demain il n'y a plus de laïcité, excusez-moi l'expression, c'est le bordel. Donc effectivement, nous œuvrons beaucoup. D'ailleurs, c'est un pacte. Par exemple, je vous donne un exemple juste qui est fait chaque samedi dans nos synagogues. Nous faisons la prière pour la République. Pourquoi ? Parce qu'on estime que effectivement, on doit respecter les valeurs, les notions de la République. Elles sont même dans la Torah, il est dit que les règles de la République, les règles du pays sont supérieures aux règles religieuses. Donc, la laïcité, c'est un point culminant qui nous permet de pouvoir vivre, encore une fois, je le répète, ensemble, de pouvoir travailler ensemble. Et ce qui pourrait amener ce... Je ne veux plus dire le vivre ensemble, parce que depuis des années, on a tout mis dans le vivre ensemble. Mais c'est ce socle commun qui est vital dans le respect des religions, des hommes, des femmes et des femmes citoyens, quelle que soit leur religion ou quel que soit ceux qui ne croient pas.
Oui, parce que ça inclut évidemment ceux qui sont agnostiques et ceux qui sont athées, parce qu'il faut aussi dialoguer avec eux. Père Jean-Jacques Rouchier, vous, votre conception
de la laïcité, bien, c'est le cadre depuis un peu plus d'un siècle, je crois 120 ans, d'un vivre ensemble possible sans qu'une religion n'impose ses façons d'être à tout un pays. Voilà. Il faut reconnaître que c'est un produit purement franco-français, oui, qui est étrange pour tous les autres. Oui. C'est le fruit de notre histoire et le moyen qui a été trouvé d'éviter qu'on continue de s'entretuer pour des raisons religieuses. Donc à ce niveau-là, c'est une excellente pratique. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de définition de la laïcité. Et que dans la Constitution, il n'y a pas le substantif, mais juste un adjectif. La République française, oui. République laïque, une et indivisible. Mais quelle est la définition de la laïcité ? Voilà. Alors donc, au point de vue pratique, c'est comme vient de le dire Salomon, le sine qua non d'une vie commune apaisée, mais cela pose un certain nombre de problèmes, en particulier lorsque l'on considère que la foi a une incidence sur la vie privée. À ce moment-là, il n'y a pas de problème, mais il y a aussi des principes qui sont énoncés par des fois et qui peuvent rentrer en contradiction importante avec ce que l'absence de référent religieux amène, comme aux yeux des croyants, la perte de certaines valeurs essentielles, en particulier pour le respect de la vie. Donc la laïcité comme pragmatique, c'est une excellente chose, absolument indispensable, qui nous permet justement de dialoguer, comme tout ce qui vient d'être dit, auquel j'adhère complètement. Mais il peut y avoir des durcissements et il est un peu à craindre que dans certains esprits, la laïcité ne risque, je pèse mes mots, de devenir une sorte de religion contre les religions. Et cela est de plus en plus ressenti ainsi par beaucoup de jeunes croyants. Voilà. Donc c'est un bien à préserver et donc à ne pas laisser dériver vers une sorte de religion officielle qui risque de devenir hostile pour beaucoup de religions. Alors, l'hostilité envers le catholicisme, elle est structurelle, puisque c'est devenu comme ça, et tout le monde s'en accommode très bien. Et pour le centenaire, le ministre de l'Intérieur de l'époque a fait venir les délégués de toutes les religions pour dire, est-ce qu'on ne devrait pas toiletter un peu la laïcité? Et les évêques, les rabbins, les chefs bouddhistes ont dit, non, non, ça nous va très bien comme ça, on ne touche rien. Voilà, effectivement, en un siècle, on est arrivé à avoir un modus vivendi tout à fait acceptable, en particulier pour l'entretien des églises et un certain nombre de questions, finalement, qui se sont révélées bien résolues par la spoliation, et tous les chefs religieux sont bien contents, enfin, que les temples et alors les synagogues, je ne sais pas si c'est tout à fait le même régime, mais lorsqu'elles ont été prises par l'État, c'est l'État qui les entretient, et donc c'est très bien.
Elias Brakandi, je m'adresse au professeur de philosophie. Alors, vous, votre relation à la laïcité, est-ce que c'est plus compliqué, comme on a l'air parfois de le laisser entendre, pour un musulman que pour un chrétien ou un juif français?
Alors, tout d'abord, je pense que c'est un cadre qui est tout à fait sain, celui de la laïcité, puisqu'il voilà, il nous permet de pouvoir déployer notre vie religieuse sans aucune contrainte, de manière tout à fait libre. Et donc
oui, parce que là-bas, c'est la liberté de culte, tout de même, il faut le rappeler.
Exactement. Exactement. Et donc, le problème, c'est que peut-être depuis quelques années, quelques petites décennies, comme disait le père Rouchy, la laïcité est en train de se muer en un athéisme militant, peut-être parfois, avec une confusion entre le fait que un représentant de l'État ne doit pas manifester de manière publique une appartenance religieuse quelconque, confusion entre ça et une exclusion pure et simple des signes religieux de l'espace public, ce qui est quand même tout à fait différent. Et j'ai l'impression que, à certains égards, on tend parfois vers ça, ce qui est, voilà, me semble-t-il, tout à fait excessif et du coup, plus du tout fidèle au principe de la laïcité, qui est le principe de libre pratique de son culte, mais au contraire, c'est l'idée d'une exclusion du culte de l'appartenance religieuse. Donc voilà, faut peut-être être un peu vigilant vis-à-vis de ça, et voilà.
Alors, nous allons faire une pause musicale dans cette émission. Avant ça, je refais un appel au don à tous les auditeurs qui nous écoutent. Nous avons besoin de votre soutien pour continuer à produire des émissions comme Vivante Église sur Radio Présence et pour assurer de manière générale le fonctionnement et le développement de notre radio. Pour faire vos promesses de dons, il faut appeler le 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00. Et pour faire directement un don en ligne, je vous invite à vous connecter à notre site internet à l'adresse www.radioprésence.com. Pause musicale maintenant, donc, je vous propose d'écouter Le cœur est in terra pax, paix sur la terre, extrait de la messe en si de Jean-Sébastien Bach. Il s'agit d'une version de la Netherlands Bach Society.
Thank you. présence.
Vivante Église, Éric Dupri.
Nous revoici à l'antenne avec mes trois invités, Salomon Attia, secrétaire général du CRIF Toulouse-Occitanie, le père Jean-Jacques Rouchy, islamologue, ex-délégué du diocèse de Toulouse au dialogue avec l'islam et au dialogue interreligieux, et Elias Samrakandi, professeur de philosophie proche des cercles soufis. Nous allons reprendre nos échanges consacrés au dialogue interreligieux qui illustre la thématique « Écoutons-nous les uns les autres » de notre Radio Don 2025. Je refais d'ailleurs un appel au don à nos auditeurs. Vous pouvez faire vos promesses en appelant le 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00, et vous pouvez faire directement un don en ligne sur notre site internet www.radioprésence.com. Nous célébrons cette année le 60e anniversaire de la fin du Concile Vatican II. Le père Jean-Jacques Rouchy a fait déjà allusion à plusieurs reprises. Il y avait eu la publication de cette déclaration conciliaire Nostra Aetate sur les relations entre l'Église et les religions non chrétiennes. Je vais vous poser à tous la même question, en commençant par le père Jean-Jacques Rouchy. On en est où aujourd'hui, selon vous, concernant le dialogue interreligieux en France? Est-ce qu'on est plutôt dans une évolution négative, ou est-ce qu'il y a des choses qui se mettent en place qui peuvent redonner un peu d'espoir pour ce dialogue?
Il faut toujours garder l'espoir, surtout que pour les catholiques, c'est l'année de l'espérance. Donc, voilà. Alors, il y a beaucoup de paradoxes dans tout cela. Effectivement, en deux mots, on peut dire qu'au niveau des chefs religieux, des responsables, donc l'esprit du concile est toujours la boussole. Et donc là, on n'a pas varié. Il y a eu des approfondissements au point de vue théologique qui sont malheureusement dans un sens unique. C'est-à-dire autant depuis Massignon et les grands initiateurs de ce changement d'attitude ratifié par le Concile comme étant donc un élément quasiment doctrinal. Donc il y a eu des avancées. Mais c'est la nature des choses et personne n'est à incriminer. Mais disons que l'intérêt pour les religions des autres est beaucoup plus marqué, du fait du concile d'ailleurs, chez les catholiques et les protestants. Les orthodoxes, je ne suis moins renseigné, je pense qu'ils sont moins intéressés, mais il n'y a pas la réciprocité pour des raisons qui peuvent se comprendre tout à fait. C'est-à-dire que très, très, très peu de musulmans se sont intéressés au dialogue interreligieux et à une comparaison qui n'est pas agressive, qui est intéressée le plus objective possible entre l'islam et les autres religions. Donc, on a toujours, ça peut tout à fait s'expliquer, la position médiévale qui est le discours qui est reproduit depuis plusieurs siècles. Et donc, il n'y a pas, si vous voulez, cet intérêt de la part des musulmans pour le christianisme et même pour le judaïsme. Donc, ça déséquilibre un peu la rencontre, hein, parce qu'il y a très peu de réciprocité, de volonté de connaître l'autre pour lui-même, sans chercher à le convertir. Donc, ça, c'est quand même un obstacle. Malheureusement, alors, parce qu'à toute chose, malheur est bon, les attentats, donc les dérives islamistes, ont obligé l'État à s'intéresser justement à l'islam pour savoir de quoi il retourne. Quoi. Et donc, il y a, dans le monde universitaire, hein, depuis 2015 à peu près, des chercheurs comme Jacqueline Chabi ou d'autres ont travaillé en particulier sur les origines de l'islam pour que les responsables de l'État devant les problèmes pratiques puissent y voir un petit peu clair pour savoir quels sont les interlocuteurs dans la communauté musulmane avec qui on peut travailler justement pour améliorer le vivre ensemble, etc. Donc, alors au point de vue de la base, il y a toujours des personnes qui, en particulier effectivement du côté des soufis, hein, qui sont les plus proches parce qu'on se retrouve assez complètement au point de vue de la spiritualité, mais par rapport aux autres, je dirais, façons de vivre l'islam, il y a de bons contacts au niveau de la vie commune, des choses partagées, du quotidien, mais on ne peut pas dire que le dialogue progresse beaucoup à la base.
Oui. Elias, ça me raconte, vous, sur cette situation aujourd'hui du dialogue interreligieux.
Alors, déjà, je ne suis pas du tout spécialiste de la question. Donc, par exemple, j'ignore à peu près tout de ce qui se fait en termes de littérature sur le sujet dans les pays musulmans, et en particulier en langue arabe. Donc voilà, la réponse, elle sera forcément très incomplète. Et même le contexte français, je ne peux pas dire que je le connais de manière précise. Donc voilà, je vais simplement parler des quelques éléments que j'entrevois de manière très personnelle. Une manière dont le dialogue s'est établi de la part de musulmans, et de manière, à mon avis, très profonde, c'est de la part de tout un tas d'auteurs qu'on va appeler pérennialistes, dans la lignée de René Guénon, donc ce philosophe des religions qui a, à la fin de sa vie, embrassé l'islam et qui a justement œuvré à mettre en évidence, sur la base d'une connaissance précise, les points communs profonds entre les traditions. Et donc, dans la lignée de René Guénon, on peut aussi parler d'un de ses disciples, en quelque sorte, intellectuel du moins, Fridtjof Schuon, qui, d'origine suisse, qui lui aussi embrassait l'islam. De manière plus tout à fait contemporaine, je dirais que personnellement, je salue vraiment l'initiative de cet islamologue qui a fondé une maison d'édition, donc Taïb Chouiref, qui s'appelle Tasnim, où il essaie justement de faire connaître l'héritage spirituel musulman en le mettant au regard des autres traditions spirituelles. Enfin, un dernier auteur me vient et qui œuvre de manière vraiment significative à ce rapprochement, c'est Reda Kazemi, qui a écrit chez L'Harmattan dans une collection assez intéressante qui s'appelle Théoria, qui justement s'occupe de spiritualité, je ne sais pas si vous connaissez.
De nom, oui.
Ouais. Où il a fait un livre justement qui s'intitule Shankara Ibn Arabi, Maître Eckhart, où il essaie justement de mettre en avant...
En relation...
Exactement, les points communs, et c'est passionnant. Donc voilà, il y a quelque chose, quelques éléments qui vont dans le bon sens, à mon avis, du point de vue d'une convergence des spiritualités, mais qui se fait de manière vraiment académique, universitaire, là, à ce niveau-là. Sinon, il y a tout un tas d'initiatives, à la base, quand même, qui se déploient. Et donc moi, je peux parler de choses qu'on essaie de faire. Par exemple, il y a eu une rencontre... à Lourdes pendant les vacances de la Toussaint, ensemble avec Marie, à l'initiative de Gérard Testard, qui fait un travail formidable. Personnellement, avec des amis, on essaie de réactiver l'antenne de Coexister Toulouse. Hein, vous savez, cette association nationale, etc. Et entre autres choses, également avec des amis, on a créé une petite association qui s'appelle l'Entreconnaissance, où on participe à des maraudes islamo-chrétiennes, avec l'association Saint-Vincent-de-Paul, tous les mercredis. Donc voilà.
Ça, ce sont des choses très concrètes et intéressantes. Il faut effectivement en parler, il faut les mettre en avant.
Voilà.
Je crois aussi que vous enseignez au lycée Raymond Nave, pas de bêtises.
Oui.
Vous voulez aussi relancer, je crois, ce qu'on appelle le CRIC.
Alors,
expliquez un peu ce que c'est.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas moi personnellement, c'est donc Michel Nonnet-Langlois qui est un très bon spécialiste de Thomas d'Aquin, qui il y a quelques années, avec le père Jean-Jacques Rouchy, initier un cercle de rencontres islamo-chrétiennes, mais qu'il souhaite désormais élargir aussi au judaïsme, et donc ça s'appellerait le CRIJC. Cercle de rencontres
islamo-judéo-chrétienne.
L'idée, c'est de le relancer à partir du 7 janvier, et donc avec Salomon, on verra comment on peut.
Je crois que Salomon Attia, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, si je puis dire. Alors vous, de votre côté, aujourd'hui, quel tableau vous faites de la situation du dialogue interreligieux?
Alors, deux choses. Premièrement, oui, effectivement, nous menons beaucoup d'actions. Et moi, depuis 2012, puisque depuis les attentats de mars 2012 à l'école Ortora, où un père et trois enfants sont décédés, je le rappelle, parce que juifs, on a mis beaucoup d'actions dans l'interreligieux. Mais malgré nos efforts, l'antisémitisme, parce que c'est une réalité, est bien là. Je veux parler de Sarah Halimi, je peux parler de Madame Knoll, je peux parler de cette jeune fille violée à Courbevoie, je peux parler de nombre de jours où il n'y a pas, on ne nous annonce pas un acte antisémite, etc. etc. Et ce qui est le plus marquant, malgré nos sollicitations, c'est que je pense qu'il y a, la France n'est pas antisémite, bien évidemment, le dialogue interreligieux, c'est pour ça que je disais que le vivre ensemble, quelque part, aujourd'hui, il était galvaudé. Malgré nos actions, il y a de bonnes actions, je pense vraiment aux actions qu'on a menées avec le père Jean-Jacques Rouchy, je pense à Hamid Demou, avec qui nous avons fait la journée de la paix le 16 mai, je pense aux diverses rencontres, n'empêche que je pense à la mairie et on les remercie par rapport à Toulouse Fraternité, mais force est de constater qu'aujourd'hui, en 2025, il y a encore la police, et on les remercie, devant des écoles juives, qu'il n'y a pas une journée où on ne parle pas d'antisémitisme. Donc le dialogue interreligieux, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'il y a une majorité silencieuse que l'on n'entend pas. Et dans le dialogue interreligieux, les religieux vont faire, on va nous se réunir, on va dire à nos communautés, évidemment, il faut faire ci, il faut faire ça, respecter les règles de la République, on l'a déjà dit tout à l'heure, et la laïcité, même si on parlait laïcar et laïcité. Mais n'empêche qu'il y a un sérieux problème, y compris, et que ce n'est pas que le dialogue interreligieux qui le réglera. Il faut parler, vous ne vouliez pas parler politique, mais malheureusement, certains des politiques aussi reprennent, effectivement, quand on dit que l'antisémitisme est résiduel en France et certains partis politiques reprennent, font du clientélisme pour justement gagner des élections ou des voix. Et donc ça, effectivement, c'est inacceptable. Aujourd'hui, en 2025, on ne devrait pas, pardon, hein, je le fais, je voulais pas parler politique, mais le dialogue interreligieux, c'est capital. Tout ce qui était dit, c'est capital. Mais il faut aujourd'hui des actions concrètes, y compris des pouvoirs publics.
Bon, on va être obligé d'arrêter cette émission parce qu'on arrive malheureusement au terme. Hein. Bon, merci à tous les trois.
Juste une petite chose pour ajouter quand même à ce qui se fait sur le terrain. Il existe encore le GAIC, groupe d'amitié islamo-chrétienne, et c'est dans ce contexte que la rencontre de Lourdes, là, je crois que ça fait 2 ou 3 ans que ça se fait aussi dans ce cadre. Donc il y a des choses qui se font à la base.
Et merci. Oui. En tout cas, j'espère que cette émission aura concouru à ce dialogue interreligieux et à faire comprendre à tous ceux qui nous écoutent qu'il est absolument nécessaire. Merci encore une fois à tous les trois d'avoir montré l'exemple en dialoguant avec respect et en vous écoutant les uns les autres. Je lance un dernier appel à nos auditeurs pour faire vos promesses de dons. Le numéro à appeler est le 05 62 48 63 00. Les dons peuvent se faire en ligne sur notre site internet www.radioprésence.com. Ce numéro de Vivante Église était animé par Éric Dupré. À la technique, Jonathan Botello. Le Radio Don se poursuit tous ce vendredi ainsi que demain samedi. Nous comptons sur votre soutien et votre générosité. Je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end. À bientôt.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.